Lecture pour vous. Des romans roses à écouter dans le noir. Une émission conçue et réalisée par Fernand Bailac. Sur CFM, tous les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Amis auditeurs, lecteurs assidus ou occasionnels, retrouvez avec Lecture pour vous le plaisir de vous faire raconter une belle histoire, comme quand vous étiez petit avant de vous endormir. Résumé des chapitres précédents. La lutte sanglante entre les deux bandes rivales permet à la police de les arrêter, les juger et les emprisonner pour meurtre et bien sûr pour le cambriolage de la banque. Pendant ce temps-là, Serge reste bien à l'abri dans sa prison, mais va bientôt être relâché. C'est alors qu'une période dangereuse commence pour lui. Chapitre 13, tout doit disparaître. Serge fut libéré donc, plus de 6 mois après le casse et les fusillades nocturnes des Hauts de Villefranche. Il prit le train pour Nice, acheta 2 sandwichs et une bière à la gare, sauta dans un taxi et se retrouva dans sa villa, sur les hauteurs de Nice, à Cimier. Dans le petit lotissement d'une douzaine de villas, la maison modeste au fond de l'impasse, était isolé de ses voisins les plus proches. Il n'entretenait d'ailleurs avec eux que des rapports courtois et sporadiques. Lorsqu'il ouvrit la maison après 6 mois de fermeture, d'un été torride et d'un début d'automne pluvieux, elle sentait le moisi et le renfermait. Il aéra complètement toutes les pièces. Le jardin abandonné était couvert d'herbes folles, les arbres commençaient à perdre leurs feuilles. La villa avait été perquisitionnée, mais il n'y avait ni dégâts ni trop de désordre. Dans le garage, attendait la Scénic bleue déjà couverte de poussière. Il faudrait aller récupérer la Honda à la fourrière bientôt. La boîte aux lettres, elle, débordée de publicités et de courriers divers, souvent des factures impayées et des relances. À la prison, son avocate lui avait transmis les courriers de sa banque, à qui il devait plus de 20 000 euros. Lui qui avait toujours eu une gestion irréprochable et des ressources constantes. Il était interdit de chéquier, de carte de crédit, et son compte avait été bloqué. On se souvient que l'essentiel de cette dette provenait des 3 chèques qu'il avait émis au casino ce samedi soir où il avait tout perdu. Par l'intermédiaire de son avocate, il avait conclu avec sa banque un moratoire et une reconnaissance de dette qu'il réglerait lors de sa sortie de prison en vendant sa villa. Son employeur l'avait licencié. Dans la villa, le courant était coupé ainsi que le téléphone. Et pourtant, un sourire serein inondait son visage et il classa avec beaucoup de calme toutes les factures et tous ses impayés. Puis il s'allongea sur son divan et s'endormit jusqu'à l'entrée de la nuit. Il attendit encore un peu, mais il n'était pas pressé. Sur le coup de 23 heures, il se glissa à l'arrière de la villa munie d'une torche électrique et d'une pince Monseigneur. Vers le fond du jardin, il s'approcha de la fosse septique. Il observa soigneusement la pelouse tout autour et constata que le regard de la fosse n'avait pas été manœuvré récemment. Il souleva le tampon et l'écarta. À la lumière de la torche, il put observer les 2 sacs marins qui contenaient le butin du casse de la banque. La fosse était toujours vide et sèche, preuve que le petit panneau qu'il avait laissé dans les WC, en dérangement ne pas tirer la chasse, avait fait son effet au policier chargé de la perquisition. Penché à travers le regard de la fosse, il dénoua le lien qui fermait le premier sac. Les liasses de billets de dollars et d'euros arrivaient jusqu'en haut du sac. Le deuxième sac, était lui aussi plein de liasses qui surnageaient au-dessus des poches de plastique où s'entassaient les pièces d'or. Les diamants et les pierres précieuses étaient loin, en lieu sûr. Heureusement pour lui, il n'avait pas trouvé de lingots d'or, qui aurait été d'une manipulation et d'un transport beaucoup trop difficiles. Or, les abandonner sur place aurait donné à la police des indications sur le peu d'importance de l'équipe de cambriolage. En fait, à la banque, l'or en lingots était gardé dans une autre salle blindée, accessible seulement au personnel de l'agence. Serge préleva 5 liasses de 50 billets de 100 euros et referma soigneusement le sac. Il replaça le tampon de la fosse septique et rentra à la maison pour se coucher. Dès demain, il lui faudrait trouver une autre cache pour les sacs. Effectivement, le lendemain matin, il descendit en ville prendre un solide petit déjeuner et ses forces refaites, il remonta à la villa. Il extirpa les 2 sacs de la fosse, puis il les porta en passant par la porte de derrière du garage jusque dans la villa, où il les monta dans sa chambre. Il n'avait pas le temps de faire l'inventaire. Il y avait plusieurs gens à faire. D'abord passer à EDF pour établir le courant, à France Télécom pour établir la ligne, prendre rendez-vous avec la banque, et surtout aller à la poste restante pour voir s'il y avait du courrier de Olia. Madame, est-ce que vous avez du courrier au nom de Serge Bruand? Vous avez des papiers d'identité? Quelques instants après, la préposée revenait avec une grosse enveloppe blanche timbrée du Costa Rica. Le courrier était posté depuis 5 mois déjà. Il lut. Mon amour, l'Odyssée se termine. Pénélope t'attend, enfilant son ennui dans un modeste hôtel de San José. Tu peux m'écrire à l'hôtel Miraflores, San José, Costa Rica. Tout s'est très bien passé. Les grues cendrées ont fini leur migration et sont revenues au pays. Je t'attends. Avec les sentiments que tu connais. Ne te fais pas de soucis pour nous, tout va très bien. Tout ira mieux bientôt, je le crois. O.S. Tatiana et Babouchka t'embrassent de tout leur cœur. Une belle carte postale représentait les terrasses et les piscines d'un bel hôtel de luxe sous les tropiques. Il ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement, et un immense bonheur l'envahit. Aussitôt, de retour à la maison, il se dépêcha d'écrire à Olia. « Mon amour, je suis rentré à la maison, moi aussi, et tu me manques énormément. Dès que j'aurai tout réglé ici, je te rejoins avec les bagages accompagnés. Prépare les excursions et les plongées. Ulysse est bientôt de retour. Baiser à toutes les trois. S. » Il la posta en ville juste avant son rendez-vous avec la banque, l'après-midi. Il fut reçu par le directeur de l'agence qui changea rapidement d'attitude quand il constata que son mauvais client venait payer ses dettes et renflouer très largement son compte en banque. Serge lui expliqua qu'il avait trouvé un acquéreur pour sa villa et qu'il avait reçu une avance en liquide qui lui permettait d'éponger ses dettes. Les liasses d'euros étaient les bienvenues. Il rétablit le fonctionnement du compte et lui fournit un carnet de chèques en attendant la réactivation de sa carte bleue. À la fin de la semaine, le courant et le téléphone étaient rétablis à la villa. Serge alla s'inscrire à la NPE. Tout paraissait en ordre désormais. Il fit l'inventaire du butin en rangeant soigneusement les liasses de billets d'euros, de dollars et de francs suisses. Puis il s'attaqua à l'inventaire des pièces en or. Difficile d'en estimer la valeur. Mais peu lui importait. Il lui suffisait de savoir qu'il disposait de 850 000 euros en liquide et d'environ 280 000 euros de pièces d'or, d'après les dernières cotations. Il se mit à réfléchir à la dernière année qu'il venait de passer. Il ne ressentait aucun remords à l'idée d'avoir quitté le clan des honnêtes gens pour celui des truands. Au fond, il n'avait volé que des voleurs, et s'il en croyait le message d'Olia, il avait en même temps sauvé la vie d'une vingtaine de personnes, sans compter celle d'Olia elle-même. C'était pas mal joué pour un petit cadre comme lui. Olia, Olia son amour, que devait-elle dans son paradis tropical, exilée à 6000 kilomètres de chez elle? Il lui fallait se dépêcher de la rejoindre, mais surtout sans commettre de faute. De toute façon, Il lui fallait partir très vite de Nice, car malgré son alibi en béton, il le savait, des indices finiraient par se révéler, surtout dans l'histoire de sa vie professionnelle. Mais comment les inspecteurs de police n'étaient-ils pas déjà à ses trousses ? Il leur suffisait de savoir que lui, Serge Bruant, avait eu dans une précédente société d'entreprise générale la charge du dossier d'aménagement et de construction de l'agence bancaire BMCI. Il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas déjà retourné dans les bureaux du commissariat. Peut-être que le fait qu'il eût quitté cette société marseillaise pour rentrer dans sa nouvelle société niçoise, et que l'affaire remontait déjà à 5 ans, le protégeait encore un peu. Mais pour combien de temps ? Par le biais de la poste restante, il commença à échanger beaucoup de courriers avec Olia. Son plan était simple. Olia devait trouver au Costa Rica une maison à vendre, assez importante pour les loger tous. Il l'achèterait en son nom propre, et les femmes s'y installeraient en attendant son arrivée. Mais il faudrait encore compter pas mal de démarches pour qu'il puisse obtenir un visa de travail et une carte de séjour permanente au-delà des 90 jours de la résidence touristique habituelle. Le fait d'être propriétaire d'une maison devait faciliter les transactions avec les autorités costariciennes. Olia, en 6 mois, avait voyagé beaucoup dans tout le pays, et elle avait repéré sur la côte pacifique, dans la province de Punta Arenas, une station balnéaire magnifique où il pourrait fonder une société de plongée sous-marine pour les nombreux touristes nord-américains et européens qui y séjournaient. Le pays était déjà mondialement réputé pour la qualité de ses très nombreux parcs naturels et ses réserves de faune et de flore exceptionnelles. On disait que 5% de la biodiversité mondiale se trouvait réunie dans un aussi petit pays. Sur les 50 000 km², on pouvait rencontrer un condensé invraisemblable de plages, de côtes rocheuses, de forêts tropicales, de hauts plateaux, de volcans et de rivières de rêve. Les fonds sous-marins, tant sur la côte atlantique caraïbe que sur la côte et les îles du versant pacifique, représentaient un potentiel touristique et sportif inouï. Serge entra en relation avec l'ambassade du Costa Rica en France et commença à proposer de s'établir là-bas, fort de ses diplômes de moniteur de plongée sous-marine. L'attaché économique de l'ambassade fut assez vite intéressé par cette proposition d'investissement touristique, mais demanda à le rencontrer à Paris. Il devait aller vite, car les visas touristiques d'Olia, de sa mère et de sa petite-fille, avaient été déjà renouvelés une première fois, et il fallait bien sûr les protéger d'une expulsion prématurée. La rencontre avec l'attaché commercial fut très sympathique, mais Serge comprit rapidement qu'il avait intérêt à s'associer le diplomate dans sa petite affaire et à lui verser un pourcentage des bénéfices. Un ticket d'accès des 37 000 euros à peu près, de la main à la main, était le préambule à tout accord. Serge arrondit à 50 000, avec l'assurance formelle que les trois femmes disposeraient, elles aussi, d'un visa permanent au pays. Le diplomate se chargeait de tout. Et rapidement, en plus. Quelques jours plus tard, Serge reprenait l'avion pour Paris avec l'argent en liquide. Au bord d'un hôtel miteux, le diplomate lui remit son visa de séjour permanent et l'attestation des mêmes visas pour les trois femmes, ainsi qu'une autorisation d'État à s'établir et à fonder une entreprise de sport et loisirs sur la côte pacifique du Costa Rica. L'enveloppe de billets se gonflerait de 10 000 euros de plus à réception de la confirmation par les trois femmes de leur nouveau statut. La semaine suivante, Olia lui transmit la bonne nouvelle et lui décrivit une somptueuse villa avec piscine et un vaste parc qu'elle avait visité non loin de Punta Arenas. Comme le propriétaire, le prix était américain, 300 000 euros, ce qui représentait une fortune pour l'économie de ce pays. À ce train-là, il faudrait cambrioler une nouvelle banque. Olia et Serge communiquaient désormais par Internet via un cybercafé de Nice. Les photos et les plans, la situation géographique de la ville, justifiaient certainement le prix demandé. En tout cas, il fallait se décider très vite. Toujours par l'intermédiaire de l'attaché commercial de l'ambassade à Paris, et moyennant encore une confortable commission, Serge trouva une banque costaricienne et un relais parisien discret qui réalisa la transaction. L'intermédiaire vint directement à Nice chercher la moitié de l'argent en liquide et il refit le voyage, pour l'autre moitié, à réception de l'acte de propriété officiel au nom de Serge Bruand. Une semaine après, les trois femmes s'installaient à Punta Arenas. L'immense villa paraissait très vide, mais la piscine enchanta Tatiana et sa mère. Il restait à meubler cette trop grande maison, abritée de l'océan tout proche, dans un parc parsemé de cocotiers et de bougainvilliers. Décidément, le rêve continuait.
CFM, lecture pour vous, diffusée les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h.
Le rêve continuait, sauf que Serge ne savait pas comment faire passer au Costa Rica son lot de 950 pièces de 20 francs et les quelques 220 pièces de 20 dollars qui constituaient son magot en or. Ça représentait environ 12 kilos, et il se voyait mal arriver avec une telle surcharge de bagages à l'aéroport. sans parler des liasses de billets qui ne tenaient pas dans deux grands sacs de voyage. Serge était coincé. C'était une partie du problème qu'il n'avait pas analysé finement jusqu'ici. Et le danger pouvait venir aussi bien de la douane française que des services financiers costariciens à son arrivée, malgré sa protection parisienne. Serge commença à fréquenter les brocanteurs, les antiquaires, et surtout les bouquinistes de la région marseillaise et aixoise. Il était surtout intéressé par des lots de livres importants, volumineux et de grands formats du style encyclopédie universelle, grands atlas, vieux livres d'histoire in quarto, et une série complète de 10 ouvrages reliés de l'illustration. C'étaient tous des ouvrages anciens, fortement reliés, très solides, qui feraient très bien l'affaire. L'affaire consistait à les évider sur une épaisseur de plusieurs centimètres d'un volume suffisant pour y loger 3 à 4 liasses de billets de banque. Bien sûr, la périphérie des pages était respectée sur plusieurs centimètres, si bien que le livre étant refermé, on ne pouvait pas deviner que le papier d'imprimerie était remplacé par du papier monnaie. Il s'était fait plusieurs matrices de découpage suivant le format des billets à loger, et donc les billets occupaient exactement le volume dégagé. Une série de pages libres par-dessus et par-dessous pouvait donner l'illusion que le livre était respecté. Les pages découpées étaient collées ensemble. Serge se constitua donc une bibliothèque fort riche, mais aussi fort encombrante, de plusieurs mètres de rayon de bibliothèque. Outre les livres coffres, il acheta en sus des ouvrages pour constituer des leurres destinés aux éventuels sondages des douaniers. La densité était respectée. Il poursuivit ses emplettes chez les antiquaires et des marchands d'art jusqu'à ce qu'il trouve 3 bronzes d'un mètre de haut environ, des sculptures du XIXe siècle, copies de statues antiques célèbres. Elles lui coûtèrent fort cher malgré le peu d'intérêt artistique qu'elles représentaient. Mais elles avaient l'immense mérite d'être creuses et fixées par-dessous à un petit massif de marbre qui leur servait de socle. Malgré la banalité du procédé, Serge pensa qu'il avait trouvé la solution pour emballer ses pièces d'or. Il truffa donc ses 3 statues et compléta le bourrage par de la cire chaude pour éviter l'éteintement à l'intérieur. Il coula à l'orifice des statues, un bouchon de plomb qui rétablissait en même temps une certaine stabilité à ses pièces. Même en démontant le socle, on ne pouvait accéder directement aux pièces d'or. Il acheta aussi quelques tableaux anciens et modernes pour donner l'impression d'être un amateur d'art et un bibliophile éclairé. Il ne lui restait désormais qu'à trouver un déménageur et un affréteur international pour emporter son conteneur de déménagement jusqu'au Costa Rica. Il s'arrangerait pour que le contenu soit suffisamment hétéroclite et banal pour décourager une fouille méthodique des douanes de destination. La CGM de Marseille lui proposa un cargo porte-container sur une ligne bimensuelle qui ralliait le Panama, plus exactement le port de Colón à l'entrée du canal côté Atlantique. Le conteneur y serait déchargé et repris par un caboteur panaméen qui desservait les ports de la côte pacifique des États d'Amérique centrale. Avec le prix de ce transport, Serge aurait pu s'offrir sur place tout le mobilier et la décoration de sa future villa du Costa Rica. Pour un supplément symbolique, l'agent commercial de la CGM lui offrit la traversée dans une cabine passager du même cargo. Serge ne pouvait pas refuser une telle aubaine, et il pourrait de plus surveiller son conteneur jusqu'au bout. Rentré à Nice, il brada sa villa en 8 jours, via une agence immobilière qui sentait la très bonne affaire. Il vendit sa voiture très vite, mais ne put se résoudre à se défaire de sa Honda. Bah, on trouverait un peu de place dans le conteneur. Il ne laissa à personne le soin de ranger ses livres de collection dans les cartons, ni d'emballer précautionneusement les 3 statues de bronze dans des caisses de bois garnies de couvertures. Le déménagement se passa sans histoire. Quand il vit le conteneur juché sur le plateau du semi-remorque, et les portes se refermer sur tout son mobilier, et que le préposé des douanes opposa les scellés,
Il ressentit comme une grande décompression, un vide se creusant en lui, comme si enfin il pouvait s'abandonner. Les deux agents des douanes étaient venus spécialement pour ce contrôle et avaient cherché à connaître ses motivations de départ, mine de rien. Serge leur avait expliqué qu'il voulait s'installer dans un pays très touristique, mais où le développement de l'exploration sous-marine amateur en était à ses balbutiements, justement sans les encadrements de sécurité exagérés comme il l'était ici. Tous ces équipements de plongée illustraient amplement ses intentions. Les fonds sous-marins des États d'Amérique centrale étaient, disait-on, parmi les plus beaux du monde, et la clientèle américaine abondait. C'est ainsi que Serge s'embarqua à la mi-février et vit, une dernière fois, Notre-Dame de la Garde qui lui faisait, comme un signe de bon voyage, sous son grand soleil d'hiver. Le cargo doubla les îles du Frioul. Et du coup, il pensa que l'île des Cocos, l'île au trésor du livre de Stevenson, l'attendait là-bas, au Costa Rica, et qu'il la visiterait bientôt avec Olia, la petite Tatiana et sa grand-mère. Et que ces trésors-là, il ne les cacherait plus. Cette nuit-là, le divisionnaire Béranger se leva pour boire un peu. Il venait de faire un cauchemar, où un plongeur sous-marin déguisé en pirate des Antilles faisait main basse sur des monceaux de bijoux et d'or dans des coffres frappés aux armes de la BMCI. Bon sang, mais c'était bien sûr, mais beaucoup trop tard. Cet épisode de Lecture pour vous, coup double d'Edgar Dorset, était illustré de la musique du film Un homme, une femme et du thème Mission impossible. Le coup double d'Edgar Dorset est ainsi terminé. Vous pouvez le retrouver sur cfmradio.fr à la rubrique Lecture pour vous, en compagnie des précédents romans d'Edgar Dorset, Sans interdit et Si l'icône voulait. Peut-être nous retrouverons-nous prochainement dans une future série de lectures pour vous. Qui sait, un nouveau roman d'Edgar Dorset ? À bientôt. Johan et Fernand vous disent à bientôt pour Lecture pour vous.